le podcast intime de Lady Phil. Épisode 3, 12 mars. Je me suis levée froissée, cabossée, comme une tôle après la nuit. Les bombardements, eux, n'ont pas chômé. Le sud du Liban, la Beïka, la banlieue sud de Beyrouth, Aramoun, la corniche de Beyrouth... Toute une géographie mobilisée pour la grande répétition nocturne du désastre régional. Une programmation riche, variée, inclusive. Chacun son front, chacun sa fumée, chacun son lot de morts à administrer au petit matin. Le sud-ouest asiatique, ou eurocentriquement parlant, le Moyen-Orient, reste fidèle à sa réputation de laboratoire grandeur nature, où les grandes puissances, les petites milices, les prophètes armés, les stratèges en costume et les marchands d'indignation testent depuis des décennies leurs concepts sur des corps bien réels. Il faut saluer la constance. Et pourtant, le jour venu, la ville recommence à bouger. C'est peut-être cela le plus obscène. Les voitures circulent, les cafés ouvrent, les gens avancent avec cette allure légèrement pressée, légèrement lasse de ceux qui savent que la normalité, ici, ne se possède pas. Elle se loue, à l'heure, sans contrat, sans assurance, sans garantie de remboursement. Ramlet El-Baïda, la mère poursuit son travail d'éternité avec un professionnalisme impeccable. Elle ondule, scintille, comme si la région n'était pas occupée à se déchirer, encore une fois, de plus, au nom de toutes les causes possibles, sacrées, stratégiques, sécuritaires, existentielles et, bien entendu, humanitaires. Les vagues, manifestement, n'ont pas consulté les derniers bilans. Et quelqu'un finit toujours par demander « Tchoulhalahawa ? » Qu'est-ce que c'est ce calme ? Car c'est ainsi qu'on appelle cela ici, le calme. Ce moment où aucun immeuble ne s'effondre pendant quelques minutes ou quelques heures. Cette suspension miraculeuse où l'on n'a pas encore reçu la prochaine vidéo, la prochaine liste, le prochain nom, le prochain quartier transformé en argument géopolitique. Le calme, c'est l'espace exact entre deux explosions, entre un drone et son collègue, entre un missile et son remplaçant. Ce n'est pas l'absence de violence, c'est sa ponctuation. Autrement dit, le calme n'est pas un état, c'est un intervalle de maintenance. Le corps, lui, ne se laisse pas berner par le vocabulaire. Il a derrière lui trop d'années d'entraînement. Il connaît la comédie. Il sait que le silence, ici, n'est jamais innocent. Alors, il reste au travail. Le cerveau scanne l'air, les nerfs évaluent les vibrations. Les muscles se tiennent prêts sans qu'on leur ait rien demandé. L'ensemble fonctionne comme un gardien de nuit devenu paranoïaque à force d'avoir eu raison trop souvent. On ne sort pas indemne d'une vie passée à comprendre, que le danger n'annonce pas toujours son entrée, qu'il aime surgir à l'improviste, de préférence quand quelqu'un commence enfin à respirer un peu. Avec le temps, cela cesse d'être une réaction, cela devient une manière d'exister. On n'habite plus un pays, une ville, une maison. On habite un état d'alerte. Le système nerveux y suspend ses vêtements, y range ses souvenirs, y prend ses repas. Il s'y installe avec l'élégance contrainte de ceux qui n'ont pas reçu d'autre logement intérieur. Ce fameux calme devient alors presque insultant. Il a quelque chose de faux. Il ressemble à ces conférences internationales où l'on aligne des mots comme désescalade, retenue, fenêtre diplomatique, pendant que des gens fouillent des décombres avec leurs mains. Une tranquillité de communiqué de presse. Une décence de façade posée très provisoirement sur une machine à tuer qui tourne à plein régime. On regarde donc autour de soi avec suspicion. Les plutôt des immeubles sont toujours là. Les gens, ceux qui n'ont pas encore été massacrés, parlent. Les tasses arrivent sur les tables. Tout cela paraît légèrement excessif, presque de mauvais goût, comme si la réalité en faisait trop dans le registre de la continuité. Le décor, une partie, pour ne pas généraliser, tient debout, mais personne n'applaudit. On sait tous que la scénographie peut changer en une seconde. Rawa, ce fameux calme, est une pédagogie de l'abaissement. On nous apprend, année après année, guerre après guerre, crise après crise, à réduire nos attentes jusqu'à l'indécence. Ne plus appeler la paix que quelques instants sans bombardement. Ne plus appeler la sécurité que l'absence momentanée de nouveaux morts parmi les proches. Ne plus appeler la vie normale que le fait d'avoir encore du café, du réseau et des murs vaguement debout. Le désastre ne détruit pas seulement les corps, les routes, les maisons. Il rabote aussi l'échelle même de ce qu'on ose espérer. Il nous entraîne à la gratitude minimale. Il nous éduque à remercier pour les miettes. Et le plus pervers, c'est qu'il y parvient. Alors oui, il faut peut-être se méfier du mot « calme ». Il sonne trop bien. Il a des manières de bourgeois. Il suggère une paix intérieure, un apaisement, une réconciliation du monde avec lui-même. Ici, il désigne tout autre chose. Une interruption dans l'exercice de l'Armageddon. Une petite vacance accordée par la barbarie à ceux qui ne sont pas encore, pas tout de suite, sur la liste. Le calme, ici, n'est pas une bénédiction. C'est un sursis. Et comme tous les sursis, il a ses usages. On répond à quelques messages, on embrasse ceux qu'on peut encore embrasser, on écrit une phrase, on met la machine à laver en route si l'électricité veut bien collaborer à l'effort civilisationnel. Puis, quelqu'un répète, avec ce mélange de fatigue, d'ironie et d'intelligence blessée, qui tient lieu de philosophie politique, de diagnostic clinique et de commentaires météorologiques. Chuhalhawa. Et tout le monde comprend parfaitement la question. Mardi prochain, retrouvez Lettres de Beyrouth 2026 de Pamela Chabier sur votre plateforme d'écoute préférée dans Lady Phil Podcast. Oh.